Vous écoutez
RMC.
Alors, Flo, si t'es là,
le catalan,
c'est parce qu'il faut qu'on fasse un point évidemment sur l'OM. Déjà, fais-nous un petit point mercato du jour là, parce qu'il s'est passé des trucs aujourd'hui qui n'étaient pas attendus du tout.
Bah surtout cet aller-retour, enfin ce chassé-croisé plutôt entre Marley Hacke. Si on lui avait dit il y a 15 jours qu'il allait signer à la Juve, bon, je sais pas comment il l'aura accueilli, mais Marley Hacke va s'engager avec la Juve, a priori pour 4 ans et demi d'ailleurs, le jeune joueur marseillais qui a eu très peu de temps de jeu. Hein, il a jamais été titulaire.
Ça veut dire qu'il est à la Juve, ils ont vu des matchs qu'on n'a pas vu alors, parce que...
Bah, ça veut dire qu'il tente un pari et que peut-être le profil leur a plu, ou que Pablo Longoria a été bon vendeur. En tout cas, lui, il est persuadé de son coup, Pablo Longoria, sur Franco Tonguia, international U19 de italien, enfin qui n'a jamais joué avec l'équipe première de la Juve, mais en fait que Pablo Longoria connaissait, parce que vous savez qu'il était l'un des boss du scouting à la Juve. Et en fait, moi, ce qu'on m'a raconté, et c'est ce que j'expliquais dans le podcast tout à l'heure, Gilbert, c'est que lui, ce joueur, ça faisait déjà quelques années qu'il avait flashé dessus. Et quand il a appris que les négociations pour prolonger son contrat étaient très compliquées avec la Juve, parce qu'il est en fin de contrat en juin 2021, son agent étant Pastorello d'ailleurs, qui est bien connu, je crois que c'était l'agent d'Evra notamment, enfin,
ouais, bon,
il a un carnet assez large, hein, et très influent en Italie notamment. Et quand il a appris que c'était compliqué, il s'est dit faut que je le fasse, hein. C'est pas une question sans son part, donc je prends un milieu de terrain, hein. Il a 18 ans, il va pas remplacer numériquement tout de suite Morgan Sanson, hein. C'est pas comme ça qu'il faut le voir, mais simplement Pablo Longoria se dit attends, ce joueur là moi je l'aime bien, moi je l'ai pas vu jouer, hein, comme beaucoup, mais d'après plusieurs sources en Italie, on dit que c'est un profil assez technique, un peu voilà, qui a du caractère au milieu et qui avait fait de belles choses donc dans les sélections espoirs, enfin jeunes en Italie et à la Juve. Donc c'est un pari de Pablo Longoria qui va s'engager également 4 ans, donc il y a une indemnité de part et d'autre qui est autour de 5 millions d'euros, donc bon, c'est ça, il y a pas de conséquences financières véritables pour l'OM.
Est-ce que derrière ces transferts là de jeunes joueurs, on n'est pas en train de préparer et c'est peut-être transition avec le thème qu'on va aborder dans un instant quand on va parler de l'OM.
La saison prochaine.
De la page blanche.
Oui.
D'un Longoria au pouvoir de plus en plus étendu. Il paraît que Jacques-Henri Hérault ne s'appuie plus que sur lui dorénavant, qui est devenu en gros le patron effectif du club, et que l'idée d'une reconstruction complète avec des jeunes joueurs et en liquidant les erreurs du passé, c'est l'idée qui domine en ce moment à Marseille.
Ouais, totalement. En fait, André Villas-Boas, avant même qu'il y ait cette crise sportive et que lui commençait à expliquer que pourquoi pas prolonger, enfin qu'il y avait des discussions, lui il avait eu cette phrase en disant la saison prochaine ce sera pour l'OM une année capitale, cet été en gros on va démarrer une année zéro pour l'OM. Et c'est l'histoire de la page blanche qu'on évoque maintenant. Moi, je me suis amusé à regarder l'effectif et il y a pour moi juste un petit noyau de joueurs qui va rester à coup sûr, et sur des joueurs sur qui l'OM compte vraiment.
Mais attends, quand tu fais ce calcul-là, est-ce qu'il y a des mecs qui sont sous contrat, donc qu'est-ce qui peut se passer?
Non, mais pas tant que ça, en fait. Si tu fais le bilan, t'as beaucoup de joueurs en fin de contrat. Tovin, on en a parlé, Amavi, Valère Germain, Kawi, Roca, Nagatomo, Pelé. Donc tu as déjà sans compter Mitroglou.
Tout ça c'est fin de contrat.
Fin de contrat. Au revoir. Sans compter Mitroglou qui
est parti.
C'est le statut du jour, il est parti en Grèce.
C'est pas sûr.
S'ils sont en fin de contrat.
Oui, mais c'est pas sûr parce que le club voulait en garder certains. Flo nous disait
de ce que tu viens de dire.
Ils avaient fait des propositions. Flo.
Non, alors sur Florian Thauvin, il y a eu une proposition. C'est ce qu'on a raconté vendredi autour de Noël, qui était une légère augmentation, mais après, on va pas revenir sur le dossier, mais
Si Longoria veut mettre en place le système de Valence avec les trois barèmes de salaire, Thauvin, à mon avis, il vaut mieux qu'il parte.
En tout cas, Longoria, il bosse.
Il lui en fait comme une proposition, apparemment, avec une légère hausse.
Légère augmentation. Après, attention, il y a d'autres choses. Flo Thauvin, en ce moment, Avec l'OM, ça se passe pas bien. Il faut dire les choses. Avec le président, c'est compliqué. Dans le vestiaire, c'est compliqué. Donc peut-être qu'il a des envies d'ailleurs aussi.
Moi, très honnêtement, je dégagerais tout ça.
Après, il y a une histoire de prime à la signature. Il faut appeler un chat un chat. Quand on est en fin de contrat, j'ai parlé avec certains qui s'y connaissent mieux que moi. On me dit que ça se joue parfois entre 3 et 5 millions d'euros que tu prends en un chèque.
Franchement, à la place de Dovin, pour la valeur de contrat, j'essaye de vivre une aventure ailleurs. La seule fois où il a voulu aller à l'étranger, ça s'est pas bien passé. Il faut qu'il tente autre chose.
Je pense que l'optique, elle est là, hein, maintenant.
Voilà. L'OM, l'histoire est un peu terminée. Moi, à sa place, j'irais voir respirer un autre air. Et effectivement, si en plus tu peux faire un bonus financier.
Oui, on va même surveiller cet hiver quand même. Je dis ça, on ne sait jamais. Parce que, bon.
Alors, il y a un autre sujet que j'aimerais que tu abordes.
Je fais juste mon petit tour rapidement, il y a aussi les prêtés qui ont des options d'achat. Il faudra faire des choix, mais Lirola, c'est trop tôt pour juger. Balerdi, je pense que l'OM va vouloir lever l'option d'achat. Cuisance, attention, parce que Villas-Boas en est un petit peu déçu.
Le secteur sportif, ouais, ça coûte cher de lever l'option.
Elle est à 10 millions d'euros.
Ouais. Bah non, mais c'est cher hein, par rapport à ce qu'il a fait.
Il faut aussi voir qui sera l'entraîneur. Et ça, à mon avis, exactement, l'OM devrait se pencher sur le dossier rapidement pour que l'entraîneur, justement, puisse.
Longoria se tient prêt.
Dire éventuellement peu, avec qui il veut continuer l'aventure.
Donc,
moi,
le noyau de joueurs.
C'est l'occasion ou jamais pour l'OM, quitte à la faire la page blanche, de la faire réellement, quoi.
Le noyau de joueurs qui serait une base solide, mais petite base malgré tout, petit noyau, Mandanda, qui va rester, qui a prolongé, Alvaro, Gueye, Rongier, Milik, parce que on compte sur lui. Luis Enrique, c'est un dossier un peu différent parce qu'on estime qu'il est jeune. Alors est-ce qu'il va s'aguerrir en prêt? Le dossier Payet, je le mets à part parce que
il a un contrat. Je l'emmène où il veut.
Non, mais tu vois, il a un contrat longue durée. Donc, si lui veut rester, il restera. Et après, si cette saison se termine vraiment mal et qu'à un moment donné il y a une autre offre, bon, peut-être que c'est un dossier un peu parallèle. Allez.
Je trouve un club au Qatar n'importe où, mais je l'enlève.
J'ai fait le tour parce qu'après, rapidement, les Sakai, Benedetto. Je vous garantis que s'ils trouvent une porte de sortie, ils vont partir et l'OM ne va pas les retenir.
Alors, c'est des joueurs qui ont fait un petit peu je sais que tu n'as pas.
Et les joueurs à forte valeur marchande, Tchaïtassar, Camara, Radonjic,
ils peuvent être vendus contrairement à Chaïtassar. Attends, parce que Flo, il faut aussi qu'il parle tactique, puis après, il a plein de boulot, il faut qu'il aille nourrir ses taupes, tout ça, donc il ne peut pas rester trop longtemps.
Il y a un élevage là, c'est
pour ça. J'aimerais que tu parles aussi un peu tactique parce que c'est important, parce que l'arrivée de Milik fait sérieusement réfléchir Villas-Boas.
Reprise de l'entraînement demain. Puisque les taupes vont se faire discrètes, on va être obligé de prendre des jumelles ou des drones pour observer l'entraînement.
Ouais, comme au Brésil, ils envoient des drones.
Exactement, monter dans les arbres autour de la commanderie. Et je pense que ça va préparer gentiment un 3-5-2 ou un 3-4-3, en tout cas un système où Milik serait moins esselé que ne l'est Benedetto depuis le début de saison. C'est pas moi qui l'invente, puisque Villas-Boas l'a glissé au cours d'une conférence de presse en disant que l'arrivée du Polonais allait sûrement le conduire à un changement de système de jeu. Ce qui contrarie un petit peu Villas-Boas dans ce plan-là, c'est que Lirola, oui, peut jouer à droite dans un système avec les trois axiaux et Lirola le piston droit. À gauche, à ma blessé pendant 10-15 jours qu'il faut encore attendre pour récupérer Amavi, c'est la petite contrariété pour Villas-Boas, mais vraiment il y a cette volonté. Je crois que l'arrivée de Milik va rimer avec des clics pour le système de jeu, parce que il se rend compte que, et dommage pour Benedetto, je pense qu'il aurait aimé avoir
associé avec lui,
quelqu'un à côté de... non mais il sera peut-être associé avec lui, mais je pense qu'il aurait aimé pendant quelques matchs ne pas être aussi esselé devant.
Bien sûr.
Et Milik, je pense que vu son charisme, vu l'investissement, vu son statut, mérite peut-être qu'on joue plus pour lui. C'est la réflexion de Villas-Boas. Et donc, il va mettre un système au service de Milik. Ce sera, à mon avis, dans les semaines qui viennent, la petite révolution tactique du côté de l'OM.
Merci Flo pour toutes ces infos. Et nous, on va continuer le débat dans quelques instants, parce que c'est vrai que du coup, il y a aujourd'hui, les choses bougent à Marseille, réflexion tactique, changement d'effectifs, Longoria qui vend, qui achète, Villas-Boas, on ne sait pas s'il va rester. Bref, et ça mérite évidemment.
Une situation toujours aussi tendue. Tiens, je vous entendais hier dans l'after en rentrant de mon match de rugby à Toulon. Vous parliez de la réunion qui devait avoir lieu là avec les groupes de supporters. Rappelez-vous, non?
Ouais, c'est toi qui en parlais. Qu'elle avait été annulée.
Les groupes n'ont pas voulu y aller.
Oui.
D'accord. Donc c'est quand même un peu différent.
C'est plus ou moins ce qu'on sous-entendait. Voilà. Je voyais pas tellement l'intérêt. Ouais.
C'est-à-dire que les groupes de supporters devaient assister au vœu de la direction aujourd'hui. Et
il y avait pas de galette.
L'immense majorité a fait savoir que dans les conditions actuelles, liées aux résultats à la crise sportive, mais surtout aux déclarations récentes, rappelez-vous, sur les Marseillais, etc. Moi, beaucoup de personnes assez influentes dans les groupes de supporters me disent que c'est le point de non-retour et que le divorce est consommé avec Jacques-Henri Hérault. Donc, ils n'ont pas voulu aller à ses vœux présidentiels.
Merci Flo.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée.